le puisatier, son rôle et ses conséquences dans notre quotidien. Article paru le 19 décembre 2012. Nous avons vu combien le puisatier de l'universel est en fait le cordon ombilical qui nous relie à la création entière, y compris avec notre soi supérieur qui, lui-même, n'est que le prolongement direct d'avec notre esprit, justement directeur, qui est situé dans le soleil. Ce cordon ombilical est à l'image d'une fibre optique qui, par définition, conductrice de la lumière blanche, c'est-à-dire de toutes les fréquences de la création elle-même. Ainsi connecté à un bout, à la création entière, nous, complètement à l'autre bout du câble de la fibre optique, nous allons sélectionner ce qui nous intéresse dans l'instant présent. Or, qui choisit pour nous quel est le meilleur programme de télé à regarder ? Notre âme ou notre ego ? Et c'est donc là que se situe la différence entre un endormi, pensant être dans la lumière parce qu'il pense, et un lampadaire qui irradie humblement via son cœur, via son être-té. Vous pouvez comprendre que regarder une émission de télé, aussi intéressante soit-elle pour votre mental ego, qui y trouvera forcément des tas de bonnes raisons, fera que votre vie se déroulera selon la programmation des opérateurs de télé. En effet, leur objectif d'audimat est directement relié à combien ils vont vous assommer avec de la pub afin de vous formater selon leur voix, c'est-à-dire de faire de vous des manipulés qui iront faire leurs courses dans les supermarchés, voter pour un type plutôt qu'un autre, ou tout simplement de vous enfoncer dans le crâne des dernières croyances scientifiques qui vous cantonneront dans l'ignorance crasse. En effet, je rappelle que la science est une religion et qu'elle est aussi néfaste que ces dernières. D'ailleurs, au moindre problème, au lieu de faire appel au pape, dont l'infaillibilité théorique a été remise en question régulièrement, on peut dire que les portes scientifiques, les pontes scientifiques, les experts sont tout autant hors du champ de l'infaillibilité. Dit autrement, le seul truc qui les différencie, c'est le costume, mais la méthodologie suivie est identique. L'un suit des textes canalisés qui datent de Mathusalem, tandis que les autres font avec la matière qui, elle, est encore plus ancienne. Bref. Autant l'un est paumé dans les voies impénétrables du Seigneur, autant l'autre essaie de se dépêtrer des multiples théories scientifiques qui peinent lourdement à unifier les différentes forces de l'univers. En résumé, une religion, c'est du féminin qui passe par l'aspect féminin, le cœur, la vibration, tandis que l'autre passe par l'aspect masculin, le mental, la logique. Alors, en quoi l'un détient plus la vérité que l'autre ? La réponse est simple, aucun des deux, mon général. Par contre, en appliquant la méthode du cœur à la science et celle de la science au cœur, on découvre que tout s'éclaircit. Et oui, quand on associe le masculin au féminin et réciproquement, on est beaucoup plus proche de ce qui est, puisque c'est comme cela que ça fonctionne. Devenir un Christ, c'est donc mélanger les deux aspects, c'est-à-dire avoir une intelligence aimante et un amour intelligent. En effet, nous connaissons l'intelligence froide, coupante et meurtrière pour le cœur car dénuée de sentiments. C'est la logique pure au service du profit pur, au service du chacun pour sa gueule. Une intelligence aimante est donc celui qui mettra au service de tous son intelligence afin que l'amour, agglutinant par principe, permette à l'humanité ou groupe de garder sa cohésion. D'où l'absence inévitable de guerre et donc de la paix tant désirée. L'intelligence aimante est le remède à nos problèmes, car c'est une intelligence qui travaille au service de tous. En ce sens, il n'est pas interdit de faire des bénéfices, mais juste ce qu'il faut pour avoir un toit, un lit et de quoi bouffer. Ainsi, je souris quand un individu doué devient par exemple un chirurgien ou un docteur renommé parce qu'il a suivi son impulsion intérieure d'aider son prochain. C'est super bien! Car il met son intelligence au service d'autrui. Mais est-il raisonnable qu'il ait une paye déraisonnable ? Mais oui, j'ai passé 10 ans d'études de médecine pour y arriver. Et alors ? Moi, en tant que plombier de l'Ain, j'y ai passé au moins 30 ans. Est-ce pour cela que je devrais faire payer ma sagesse à prix d'or ? Mes dons, mes qualités m'ont été donnés gratuitement afin que j'exécute mon contrat de vie envers l'humanité. Et je ne vois pas en quoi je serais différent en termes de paye par rapport à un menuisier, à un technicien de surface ou à une femme au foyer. Voyez donc que Sous l'image égotiquement satisfaisante d'avoir reçu des dons spéciaux, il est obligatoire de faire casquer financièrement ceux qui sont venus ici expérimenter une vie plus douloureuse. En quoi avoir plus d'intelligence fait-il que l'on doive exploiter les autres? La réponse est simple. Seul l'ego qui prend et qui veut est à l'origine de ce déséquilibre. Dit autrement, plus tu as de dons et de qualités, et plus ton intelligence doit fonctionner dans le service à autrui, ce qui est le domaine du cœur. Et si tu es dans le vrai cœur, non pas dans le cœur égo, tu seras alors dans l'humilité, la simplicité, car tu auras découvert que ce que tu possèdes t'a été gratuitement donné. Ainsi, l'intelligence aimante démontre tout simplement que si le dit individu est intelligent, c'est qu'il a compris qu'il est un instrument de l'un au service de l'un. Il sera donc rémunéré par les voies de l'un, et non par un marchandage de 3D, où le mode survie de l'ego est maximal. En quoi est-ce de la survie quand vous avez 3 résidences secondaires, 5 voitures et 3 piscines? Bref, en résumé, c'est du même style que les monseigneurs et papes. Ils prêchent exactement le contraire de ce qu'ils font. Ils prêchent l'humilité, la simplicité, la pauvreté, et pourtant ils aiment être aux premières loges, que l'on s'agenouille devant leur grâce, que le tapis rouge leur soit déroulé, que la table soit hyper bien garnie, que la chambre soit une suite royale et les serviteurs assez nombreux. Bref, le luxe à l'état pur, à l'état brut. Nous avons donc vu que l'intelligence aimante est la mise à disposition de l'intelligence que nous avons reçue au service d'autrui, mais donné avec humilité et générosité. Le second volet, l'amour-intelligence, c'est évidemment le contraire de l'amour con, de l'amour stupide, de l'amour possessif, de l'amour qui prend pour sa tronche, pour soi. Ainsi, l'amour-intelligence est d'abord et avant tout un amour sagesse, un amour qui sait faire la part des choses, car sinon son inconditionnabilité vous détruira inexorablement. Inconditionnalité vous détruira inexorablement. En effet, si la source avait répondu à tous vos caprices, pensez-vous que vous seriez encore en vie? Certainement pas. Car c'est grâce au manque que vous avez pu prendre du recul et découvrir que votre demande était un caprice con et dangereux, autant pour vous que pour la communauté. Eh oui, l'amour de Cadet est inconditionnel. Mais il demande sagesse et donc intelligence, logique et prise de décision. Quand un de vos gosses fait un caprice pour avoir une sucette alors qu'il vous les a brisés menus pendant toute la journée, est-ce que votre amour inconditionnel devrait afficher la faiblesse de dire oui? Si vous le faites, alors le gamin poussera le bouchon encore plus loin et au final, vous deviendrez le larbin n'ayant aucune valeur à ses yeux. Ne soyez pas étonné qu'il vous traite ensuite comme une moins que rien quand il sera plus grand et qu'il ne vienne plus vous voir dans vos vieux jours. Car l'amour con, l'amour inconditionnel sans réflexion et jugeote, a entraîné chez lui un manque de marque, un manque de référence qui lui coûtera beaucoup, dont il souffrira et fera souffrir. Et oui, si à la maison, maman ou papa est une mauviette, alors comment voulez-vous qu'il agisse avec sa future femme ou collègue? Il deviendra un tyran, un irrespectueux, et l'autre ne comprendra pas pourquoi il est si coléreux, si emporté, et qu'il est capable de cogner sans avoir le moindre ressentiment ou pitié. L'amour sans sagesse, l'amour sans intelligence est une crasse encore pire que l'intelligence sans cœur. L'intelligence sans cœur vous pompe au niveau de la matière, c'est-à-dire les biens matériels, mais l'amour sans intelligence vous prive au niveau de l'âme, au niveau du contact avec les fréquences supérieures de votre être, de votre divinité. Or, quelle souffrance fait le plus mal? Ne pas avoir de quoi payer les factures du mois, ou de ne pas avoir d'amour envers vous-même, parce que coupé de votre être-té? À court terme, c'est sûr qu'une facture, c'est gênant. Mais nous savons tous qu'on y arrive d'une manière ou d'une autre. Mais qu'en est-il du manque d'amour par rapport à soi-même? Ça se cumule, au point de faire que notre vie n'a plus de sens et que l'on se demande ce que l'on est venu faire en ce monde pourri. Donc point besoin d'accuser le monde de vos malheurs, car cela ne fera qu'empirer les choses. Mais par contre, si vous commenciez à vous aimer vous-même, et donc rétablir la connexion avec votre âme, votre être-té, alors les choses ne pourront que s'améliorer. L'amour intelligent est donc de comprendre que vous devez commencer par vous-même et que cela déteindra tôt ou tard autour de vous, car vous serez devenu votre propre solution. Le processus de l'ascension n'est que purement et simplement redémarrer ce qui vous donne goût à la vie. Et celle-ci est en vous et s'appelle renouer le contact avec votre âme ou enfant intérieur. Et oui, car votre enfant intérieur pourra de nouveau être lui-même. Alors les rires et la joie seront revenus en vous, tout simplement. Nul besoin d'aller chercher ailleurs ou d'espérer quoi que ce soit de l'extérieur. Car l'unique solution à votre problème est vous et votre capacité à vous aimer vous-même, et cela d'une manière inconditionnelle. Ainsi, chaque pas vers votre intériorité, chaque pas fait avec foi envers votre véritable nature, votre véritable identité, vous apportera son lot de bienfaits et de certitudes. Ainsi, chaque reconnexion intérieure, aussi infime soit-il, est une reconnexion d'une petite fibre optique, et donc de l'apport de lumière supplémentaire. C'est ainsi en reconnectant fil par fil que ça deviendra un torrent de lumière, pour finalement devenir lumière vous-même. Ainsi, au lieu de jouer dans la sombritude et la négativité coutumière, vous allez progressivement élever votre luminosité, c'est-à-dire votre fréquence. Cela faisant, vous découvrirez aussi les filtres et sombritudes intermédiaires qui faisaient que vous n'arriviez pas à trouver les petits bouts de fil à rebrancher. Ce que nous appelons le premier voile de l'oubli ainsi que le second est en fait des zones d'ombre, parce que justement les fils ont été coupés ou tout simplement pas encore connectés. En effet, pour une entité normale, normalement dans un monde unifié, c'est à elle, lorsqu'elle est en 3D, d'aller se connecter à la 4D, c'est-à-dire de passer au stade de la survie, l'intelligence basique, à l'intelligence du cœur. Puis, ce n'est qu'ensuite qu'elle associera les deux composantes, l'intelligence et l'amour, pour expérimenter la Trinité, c'est-à-dire l'intelligence aimante et l'amour intelligent dans la loi unique de l'homme. Cependant, ce n'est pas notre cas, nous, les Ourandiens, puisque nous avons décidé d'explorer la démarche inverse, c'est-à-dire de couper les câbles d'une manière lente mais inéluctable afin de chuter dans nos fréquences. C'est une démarche absolument novatrice dans la création et, comme je le répète à l'envi, on est loin d'être des branquignoles. Bien au contraire, on est tous des guerriers de lumière et c'est la raison pour laquelle l'Église a fait de nous des pleurnicheurs de première. Car plus on se lamente et plus on s'éloigne de notre véritable capacité à se remettre en marche tout seul. En d'autres termes, l'Église vous décourage afin que vous n'ayez plus confiance en vous, en vos capacités angéliques, en vos dons, en vos acquis d'être de lumière. Car c'est là son rôle dans la descente, dans la chute, qui était nécessaire à notre expérimentation. L'Église a fait son job, mais maintenant c'est terminé, puisque c'est l'heure de rallumer toutes les lumières en nous reconnectant. Donc, paix à son âme. Je tiens à vous faire remarquer que si les Français, qui je vous le rappelle sont le chakra du cœur de l'humanité, sont les plus grands pleurnicheurs du monde, et ce n'est pas un hasard du tout. Tous les étrangers nous envient de bien des manières, et nous, on n'est pas contents, jamais contents, ou suffisamment contents. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et on pleure sur notre sœur comme des madeleines. C'est aussi ce qui prouve que l'on est bien dans le cœur. On se plaint de ceci, de cela, d'un monde falsifié, de la souffrance, et pourtant nous donnons, de tant de manières que l'on en est devenu aveugle. Ce sont les Français qui font le plus de dons aux organismes humanitaires par habitant, etc. Bref, au lieu d'avoir les bras ballants comme les branches des saules pleureurs, et si on les reconnectait en leur faisant prendre la direction du ciel? Et oui, au contraire des entités normales qui doivent construire la connexion avec la 4D et qui prend un temps fou, même dans un monde unifié, nous avons déjà tout le câblage qui nous attend puisque nous n'avons fait que nous débrancher. Nous n'avons donc aucune installation à créer, mais juste à nous reconnecter. Ceci explique la raison pour laquelle nos progrès sont si phénoménaux et qu'on bluffe les hautes instances, tant cela nous est facile de nous reconnecter. Il faut des millénaires et des millénaires aux entités n'ayant pas chuté pour construire ces connexions. Et nous, en l'espace de quelques années, ou mois, on va faire ça en un claquement de doigts. La preuve est évidente, car il vous suffit de regarder les progrès que vous avez accomplis dans votre élévation de fréquence ces quelques dernières années, mois ou semaines. Aussi, je vais répondre à une question d'un lecteur qui me demande pourquoi cette période du 21-12-12 est si importante, et pourquoi on ne peut pas le faire plus tard, en 2013, 2014 ou 2015. La réponse est simple, comme d'hab. Si par exemple, votre compteur électrique saute et que vous n'avez plus d'électricité, que faites-vous? Vous allez à la cave pour trouver le tableau électrique et réenclencher le disjoncteur. Dans l'ancien temps, il fallait trouver le fusible et le changer. Or, si vous n'avez pas de lampe torche ou quelque chose qui éclaire, il va falloir y aller à tâtons avec tous les risques de vous prendre une table, un meuble, un balai, voire carrément un râteau. Mais c'est pas fini. Puisque même si vous arrivez au tableau électrique, c'est pas dit qu'une petite électrocution ne vous attende pas. Mais avec une lampe torche, ça sera de l'enfance de l'art, et donc beaucoup plus rapide et en totale sécurité. Eh bien, la lampe torche, dans notre cas, c'est l'alignement avec le grand-père Alcyone. Enfin, quand je dis lampe torche, c'est petit, parce que ce serait plutôt du style projecteur, stade de foot. C'est aussi la raison pour laquelle un grand nombre d'endormis, les préhumains classiques, va se réveiller et rebrancher le compteur en un temps si court, et que les vieux blaireaux comme moi, qui ont été avec un briquet pendant 30 ans tout en se brûlant les doigts, pourraient avoir un sérieux coup de gueule, voire de sentiment d'injustice. Mais cela ne se fera pas vraiment. Bien que mes délires trahissent mon envie de boffer tous ceux qui se trouvent à la cave. Bref, pendant que l'on soignera mes brûlures doigtesques dans l'infirmerie locale, les autres iront peinard rejoindre la nouvelle ère de jeu en 5D. Mais bon, rassurez-vous, j'ai quand même obtenu d'avoir des infirmières haut de gamme qui, comme par hasard, travaillent toutes dans l'équipe au sol actuellement. Comme vous le savez et le voyez, je suis béni de l'un, d'où ma propension à vouloir assoiffer les fidèles en vidant le bénitier des églises. Il faut bien s'amuser un peu, non? Là aussi, soyez rassurés, les curés ne m'en voudront pas, car quand ils verront le décolleté lumineux, c'est-à-dire thymus oblige, et donc forcément magnétique de mes infirmières chéries, ils seront les premiers à vouloir toucher véritablement les voies du Seigneur, et donc se recommeler. Voyez, l'un n'oublie personne, et n'est aucunement rancunier.